France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, un pas de plus vers le nucléaire. Nous allons relancer la construction de réacteurs, dit Emmanuel Macron. Nous sommes prêts, lui répond le patron d'EDF. Quelle stratégie nucléaire? Nous verrons cela avec Fabien Cazot. L'allocution du président hier avait de quoi séduire les électeurs de droite. Entre valeur travail, réforme de l'assurance chômage et plaidoyer pour le report de l'âge légal à la retraite, c'est ce que nous dira Maxence Lambrec. Au chapitre Covid, pas de passe sans troisième dose pour les plus de 65 ans. Le président annonce aussi l'arrivée de traitements. Nous verrons de quoi il s'agit. En Mayenne, la thèse de l'enlèvement est privilégiée après la réapparition de Lisa, la joggeuse dont on est resté sans nouvelles pendant 24 heures. L'ultime hommage à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, sa dépouille aux Invalides avant le 1-11 novembre au Mont-Valérien. Le grand public peut se recueillir.
Il représentait la personne qui a opposé une résistance pour que la France reste la France. Et je suis extrêmement reconnaissante pour tous ceux qui ont eu une telle abnégation pour défendre notre pays.
Et dans le vif de l'histoire, l'importance du Mont-Valérien dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'actualité encore, à quand la fin des voitures thermiques? À la COP, l'engagement attendu de 6 constructeurs pour 2040. Le projet de centre Amazon près du pont du Gard repoussé par la justice. L'OMS lance une alerte à la pénurie de seringues. Et Thomas Pesquet, viser la Lune, ça lui fait pas peur. Mais pour l'instant, repos. À 13h30, à l'heure de MeToo, quel rôle pour les médias, les associations et la justice? Comment améliorer le fonctionnement de la justice dans les affaires d'agression sexuelle? Alors que 8 femmes accusent à nouveau Patrick Poivre d'Arvor après le classement de l'enquête, la journaliste Marine Turchi publie « Faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations MeToo ». Vos questions sont attendues dès maintenant, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Et puis dans C'est une chanson, nous écouterons du Bruce Springsteen. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Que s'est-il passé pendant les 24 heures où personne n'avait de nouvelles de Lisa, cette jeune fille de 17 ans, un temps portée disparue en Mayenne, avant de réapparaître hier soir très choquée dans un restaurant kebab de Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres du lieu où elle avait disparu en allant faire son jogging. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
La thèse de l'enlèvement est privilégiée, Emmanuel.
Oui, très clairement, et par plusieurs ravisseurs, selon les premières déclarations aux gendarmes cette nuit de la jeune adolescente. Lisa, c'est son prénom. Une première audition réalisée après un examen à l'hôpital, mais qui devait se poursuivre ce matin à son domicile. Des premières déclarations qui ont, en tout cas, permis d'avancer dans l'enquête de cette traque de suspects. Selon la procureure de la République de Laval, plusieurs dizaines de gendarmes ont fait du porte-à-porte depuis hier soir, depuis que l'adolescente s'est effectivement réfugiée dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe. Et des témoins disent l'avoir vue sortir d'une voiture. La jeune joggeuse a déclaré au gérant du restaurant qu'elle venait d'échapper à ses ravisseurs, qu'elle avait donc réussi à s'extraire de ce véhicule dans lequel elle se trouvait. On peut donc imaginer que c'est cette voiture décrite par la victime et des témoins qui est recherchée depuis hier soir. On peut penser aussi que du travail de téléphonie et de géolocalisation ont été menés depuis ce croisement entre deux routes à 10 km de là, ce croisement où avait disparu Lisa à 5 minutes de chez elle. Et sur ce point précis, nous confiait ce matin une source proche du dossier, la configuration de la région rurale permet de penser que les suspects seront retrouvés dans les heures, les jours qui viennent.
Autre élément de l'enquête, un homme placé un temps en garde à vue a été mis hors de cause. Le nucléaire est bel et bien une option d'avenir pour Emmanuel Macron. Extrait de son allocution hier, suivi par près de 20 millions de personnes.
Pour garantir l'indépendance énergétique de la France et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables.
Il y a un mois, dans le cadre du plan France 2030, le président avait déjà annoncé le lancement de réacteurs de petite taille. Va-t-il plus loin? On détaille cela dans un instant. En tout cas, le PDG d'EDF, auditionné ce matin au Sénat, saisit déjà la balle au bond.
EDF a beaucoup travaillé avec la filière nucléaire pour pouvoir affirmer que nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous avons remis à l'État, à sa demande, au mois d'avril dernier, un rapport complet sur ce grand programme industriel avec les aspects techniques, économiques, calendaires, économiques et réglementaires.
Jean-Bernard Lévy, ce matin devant les sénateurs, chez EDF, on dit encore attendre plus de détails sur l'annonce du président hier soir. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Quelle stratégie nucléaire se dessine?
Alors l'option privilégiée, c'est celle de faire gros, de se lancer dans des programmes d'EPR, dits de deuxième génération. Il faut les construire par bouquet de réacteurs, explique-t-on chez EDF, sinon le coût unitaire est trop élevé. Le scénario de 6 réacteurs EPR est à l'étude depuis 2 ans. Il mobilise toute la filière, EDF en tête, mais aussi Framatome pour les chaudières et Orano pour le combustible. Une filière dont on a bien vu la faiblesse à se relancer dans des chantiers comme à Flamanville, après avoir été à l'arrêt pendant de nombreuses années. Mais là, plus le choix, argumente-t-elle, face aux augmentations de consommation électrique attendues dans les 20-30 prochaines années, du fait des nouveaux usages appelés à se développer, comme les voitures électriques ou les pompes à chaleur. Les SMR, ces petits réacteurs dont vous parliez à 500 MW de puissance, sont par ailleurs toujours en développement. Le programme est encore trop embryonnaire, mais pourrait constituer à terme un débouché pour la filière en termes d'exportation à l'étranger. L'argument, aider les pays qui prennent en ce moment des engagements zéro carbone à la COP26 à tenir leurs objectifs en alimentant leurs villes ou certaines grosses installations industrielles par ce type de réacteur.
Le nucléaire donc, mais aussi une série d'autres thématiques économiques hier dans les 27 minutes d'allocution du président. Un enseignement dans la voix d'une des candidates à la présidentielle, Valérie Pécresse, invitée de France Inter ce matin.
Il a fait une tentative de hold-up à nouveau sur les idées de la droite. On voit un président sous la pression de la droite.
Valérie Pécresse avec Léa Salamé, hold-up je ne sais pas, mais de fait, Maxence Lambrecq, un certain nombre de thématiques et de mots-clés employés hier par le président sont de nature à intéresser les électeurs de droite.
En effet, c'est par exemple la toute première fois qu'il promet, s'il est réélu, le report de l'âge légal de départ en retraite. Il avait toujours été question d'âge pivot, de durée de cotisation. Repousser l'âge légal, ça veut dire 65, 66, 67 ans. C'est ce qu'a lancé Édouard Philippe le mois dernier et qui a fait scandale dans la majorité. Ce matin, d'ailleurs, d'anciens socialistes ont du mal à accepter ce virage. Heureusement, il continue de promettre une retraite minimum. Il y a eu aussi ce nouveau couplet sur la valeur travail, avec des chômeurs contrôlés. Davantage, 25% de contrôle en plus dans les 6 prochains mois, précise ce matin le gouvernement, typique des années Sarkozy. Et dans ce bilan à la cavalcade, il n'a pas oublié de cocher la case sécurité. Les résultats sont là, mais on va faire mieux avec, s'il est réélu à nouveau, l'adoption d'une grande loi de programmation pour la sécurité intérieure qu'il présentera début 2022. Retraite, chômage, sécurité, il manquait un totem de droite, le nucléaire. Il n'a pas voulu attendre son déplacement prévu à Belfort pour annoncer la construction de nouveaux réacteurs. On vient d'en parler, alors que l'avant-veille, tous les candidats de droite en avaient fait un marqueur de leur premier débat. C'était bien son premier discours de candidat. Il ne manquait que la bonne voix.
Maxence Lambrecq en direct de l'Élysée pour France Inter à propos des contrôles de chômeurs. 400 000 en 2019, 400 000 contrôles. Ils vont s'intensifier. 25 de plus pour vérifier que les demandeurs d'emploi mettent tout en œuvre pour revenir à la vie active. C'est ce que précise ce matin la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Et puis bien sûr, il y avait un long volet sanitaire dans l'intervention d'Emmanuel Macron hier. La dose de rappel obligatoire pour les plus de 65 ans d'ici au 15 décembre s'ils veulent conserver le pass sanitaire. À cette date, ceux qui auront leur schéma vaccinal complet depuis 6 mois et 5 semaines et n'ont pas fait le rappel, eh bien verront leur pass désactivé. La dose de rappel pour les plus de 50 ans à partir du 1er décembre. Autre mesure anti-Covid annoncée après l'allocution, le retour du masque dans toutes les écoles élémentaires lundi. Et puis il y a cette phrase du président, nous bénéficierons dès la fin de l'année de premiers traitements réellement efficaces contre les formes graves de Covid-19. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
De quoi parle-t-il ?
Eh bien, il parle de ces traitements qui ont le gros avantage de se prendre par voie orale. La première pilule, c'est celle du laboratoire Merck, le molnupiravir, autorisé la semaine dernière en Grande-Bretagne, mais pas encore en Europe. 50 000 doses ont tout de même été commandées par la France et sont attendues d'ici à début décembre. Les résultats présentés, alors uniquement par communiqué du laboratoire, semble prouver son efficacité. Il diminuerait de moitié les hospitalisations et la mortalité. Le molnupiravir est un médicament initialement développé contre une sorte de grippe qui touche les chevaux et les hommes, ressorti des cartons avec la pandémie, un antiviral très puissant qui pousse le virus à tellement muter qu'il meurt. Une arme certes, mais à manier avec précaution, précise Bruno Canard, virologue au CNRS, spécialiste des coronavirus.
Il était resté dans les cartons parce qu'il a un inconvénient sur des questions sur la génotoxicité, donc à long terme, c'est-à-dire le pouvoir potentiel de créer des mutations chez les patients. Et donc, qui dit mutation, dit risque de cancer. C'est un médicament qui va être très surveillé et pris de manière très contrôlée.
Très contrôlée, cela veut dire pas pour certaines populations, comme les femmes enceintes par exemple, et uniquement pour les personnes testées positives qui risquent de faire une forme grave. La Haute Autorité de Santé doit justement déterminer dans les prochaines semaines qui aura accès à ce traitement oral et dans quelles conditions. L'autre pilule prometteuse, c'est celle de Pfizer, le Paxlovid, empêche lui la multiplication du virus. Là encore, on ne peut s'appuyer que sur le communiqué de Pfizer, mais les résultats affichés sont encore plus prometteurs, efficaces à 89% pour prévenir le risque d'hospitalisation ou de décès. Pas de commande officielle de la France pour le moment. La validation par l'Agence européenne du médicament est attendue fin décembre, début janvier.
Et je vous disais, près de 20 millions de téléspectateurs devant l'allocution hier. C'est nettement moins qu'au plus fort de la crise Covid. C'était jusqu'à 37 millions. La dégradation épidémique est nette, dit ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui précise encore qu'aucun pass sanitaire ne sera exigé pour aller voter l'année prochaine. Et puis, autre information importante, le laboratoire franco-autrichien Valneva et la Commission européenne annoncent aujourd'hui avoir conclu un accord allant jusqu'à 60 millions de doses de vaccins contre le Covid-19. Rappelons que pour l'instant, Valneva n'a reçu aucune autorisation de l'Agence européenne du médicament. On a connu, en France ou ailleurs, toutes sortes de pénuries depuis le début de la pandémie. Celle qui inquiète à présent l'Organisation mondiale de la santé, Jérémy Lanche, c'est une pénurie de seringues.
Pour bien comprendre l'impact de la pandémie sur le marché du matériel médical, il suffit de rappeler que près de 7 milliards de vaccins contre le Covid ont déjà été utilisés dans le monde. C'est plus de deux fois le nombre de vaccins normalement injectés chaque année hors pandémie. Le risque, c'est bien celui d'avoir des vaccins contre les maladies les plus dangereuses, mais de ne pas avoir les seringues pour les administrer, prévient Lisa Edman de l'OMS.
L'une des conséquences majeures d'une pénurie de seringues, ça pourrait être un retard dans les programmes de vaccination hors Covid. Les effets pourraient se faire sentir pendant des années si nous nous retrouvions avec une génération entière d'enfants qui n'ont pas été vaccinés contre les maladies infantiles. L'autre problème, c'est la réutilisation des seringues usagées, qui est très dangereuse. On sait que cette pratique tend à augmenter quand les seringues ne sont pas disponibles.
Une grande partie des seringues utilisées pour les vaccins sont aujourd'hui fabriquées en Chine et en Inde, mais même si les industriels augmentaient leur capacité de production, cela prendrait beaucoup de temps avant que les produits soient disponibles. La solution, à court terme, dit l'OMS, c'est que les gouvernements ne commandent que les stocks dont ils ont besoin. Exactement l'inverse de ce qui s'est produit avec les vaccins contre le Covid. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Et à propos du Covid, sachez que dans un zoo de Singapour, 4 lions ont été testés positifs parmi les symptômes de la toux et des éternuements. Quand verra-t-on disparaître les voitures thermiques, moteur essence ou diesel? À la COP de Glasgow, 6 constructeurs automobiles doivent s'engager aujourd'hui à cesser la production de véhicules thermiques d'ici à 2040. Il s'agit de Volvo, Ford, General Motors, Mercedes, BYD et Jaguar Land Rover. Pas de Français, pas non plus les deux plus grands constructeurs mondiaux, Toyota et Volkswagen. Cela dit, des engagements avaient été pris avant la COP. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
À quand l'extinction des véhicules thermiques? Où en est-on dans le calendrier?
Alors effectivement, sans attendre ces grands constructeurs qui s'offrent une belle photo en pleine COP26, des engagements ont bien été pris, notamment par les constructeurs français. Quelques exemples, DS, qui est la marque premium de Stellantis, ex-PSA, à partir de 2025, tous les nouveaux modèles seront électrifiés. Même chose pour Opel à partir de 2030. Et d'ici 2030, pour chacun des 90 modèles de Stellantis, il y aura au moins une offre électrifiée chez Renault. L'objectif est encore plus lisible, zéro émission de carbone en Europe d'ici 2035. Et de toute manière, Bruxelles, puisqu'on parle d'Europe, compte interdire les ventes de véhicules à moteur essence ou diesel en 2035 précisément. Est-ce pour autant la fin de la fabrication du moteur thermique? Eh bien, sans doute pas, parce qu'il reste des gros marchés qui ne passeront pas à l'électrique tout de suite. Les États-Unis, par exemple, très important pour Nissan chez Renault, pour Jeep chez Stellantis. Et puis le gros marché de demain, c'est l'Afrique, où le moteur thermique a encore de beaux jours devant lui.
L'énergie, c'est aussi un sujet de vie quotidienne et de précarité pour beaucoup de Français. La précarité énergétique concerne 12 millions de Français, selon la Fondation Abbé Pierre. Ils vivent dans des passoires thermiques, quelques 5 millions, ou n'ont pas les moyens de se chauffer. Journée spéciale sur ce sujet sur France Inter. Et la question ne concerne pas que les locataires victimes de propriétaires indélicats. Certains foyers modestes ont acheté leur logement à un moment où les normes étaient moins exigeantes. Et ils ont parfois droit aux aides de l'État, sans le savoir, pour faire des travaux. Voici l'exemple d'un couple de retraités à Estrée-Saint-Denis, près de Compiègne, dans l'Oise. Reportage France Inter de
de Julien Morcelli.
Il y a un an, Françoise et Bruno n'auraient pas osé ouvrir leurs portes.
J'avais beau faire le ménage dans la maison, ben je me disais si quelqu'un rentre, ils vont dire les sales. On a tellement honte.
Pour comprendre, il faut remonter 20 ans en arrière, lorsque le couple achète ce modeste pavillon de briques en piteux état.
C'est quand on avait bien isolé et fini quasiment les travaux qu'on s'est dit, bah, tout compte fait, non, il y a de la moisissure qui réapparaît.
On dormait là, voilà. Ce mur, c'était noir, complètement noir. Votre doigt, il passait à travers tellement c'était gorgé d'eau. Ça faisait comme une odeur, comme quand vous descendez dans une cave et qu'il y a de la terre et que c'est humide. Moi, je me comparais à un rat, parce qu'un rat, c'est dans l'humidité, c'est dans le noir, dans la crasse. Et moi, j'avais l'impression que ça faisait ça. J'avais un pull, plus un gros gilet par-dessus. J'avais froid comme tout, quoi. J'ai déclaré une neuropathie qui s'est aggravée à cause de l'humidité.
56 000 euros sont nécessaires pour isoler correctement la maison.
Vous savez, quand vous travaillez, vous êtes quasiment au SMIC toute votre vie.
Vous faites un petit coin, puis ben après, quand vous avez des sous un peu plus tard, vous faites un autre coin, mais le premier coin, il s'est déjà dégradé.
La galère prend fin il y a 3 ans, lorsque Françoise, bénévole au Secours Populaire, assiste à une réunion sur le mal-logement.
J'ai dit à un monsieur, ben on dirait que c'est chez moi. Et il m'a dit, ben écoutez, on peut venir voir. Il y a des choses qu'on ne savait même pas qu'on a eu le droit. On n'avait pas les moyens déjà d'avoir Internet et on ne savait pas faire.
Aujourd'hui, les travaux sont achevés avec un gain énergétique de 77%.
Et le téléphone sonne sera consacré à ce thème de la précarité énergétique à 19h20. Contre l'un, l'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité. Contre l'autre, 18 ans de réclusion pour vol aggravé. Dans les deux cas, le caractère antisémite des faits est retenu. Au procès du meurtre de Mireille Knoll, cette dame de 85 ans, malade de Parkinson, tuée chez elle de 11 coups de couteau à Paris en mars 2018, les deux accusés ont pris la parole une dernière fois ce matin avant le verdict. Compte rendu d'audience pour France Inter, Mathilde Vinceneux.
J'aurais pu faire quelque chose, j'aurais dû faire quelque chose, affirme Alex Karim Bacus en chemise dans le box. Il s'adresse à la famille de Mireille Knoll. Je regrette sincèrement, comme son co-accusé, il risque la perpétuité. Mais dans ses réquisitions hier, l'avocat général a considéré qu'il n'était ni l'auteur ni le complice du meurtre. Il a demandé une peine de 18 ans de réclusion contre lui parce qu'il a volé avant et après la mort de la vieille dame et qu'il a été comme contaminé par l'antisémitisme de Yassine Mioub. Yassine Mioub, seul auteur du meurtre sauvage selon le ministère public. Dans le box, il se lève, en chemise lui aussi. « Je n'ai pas tué Mireille Knoll. Je suis désolé pour sa famille, pour tout ce qu'il s'est passé. Désolé aussi pour ma mère, pour tout ce qu'elle a subi depuis 3 ans et demi. Sa mère qui comparaît libre pour destruction de preuves. Elle risque 3 ans de prison. »
Au procès des attentats du 13 novembre, un président de la République attendu cet après-midi, François Hollande, doit venir témoigner. Le procès qui doit s'ouvrir à 12h30, qui s'est ouvert en fin de matinée. Le tribunal administratif a offert une victoire à ceux qui ne voulait pas d'Amazon et de ses camions près du pont du Gard. La justice annule l'autorisation environnementale préalable à la construction d'un centre de tri de colis à Fournes. Cela vient après l'abandon d'un autre projet près de Nantes. Le géant américain rencontrerait-il plus qu'ailleurs des difficultés à s'implanter en France? En tout cas, Célia Kiré, dans le Gard, c'est très compromis.
Oui, à Fournes, le permis de construire est annulé. Pour le tribunal administratif, la promesse des emplois créés par Amazon n'est pas suffisante pour justifier d'un intérêt public majeur. La protection de la biodiversité est bien supérieure. Patrick Genet, apiculteur à Fournes, se battait depuis 3 ans sur ce point. Il a bien été entendu.
C'est une victoire pour moi en tant qu'apiculteur. J'espère que ça va réveiller l'ensemble des apiculteurs pour se dire je défends mon territoire. La pigrièche peut venir se nourrir, mes abeilles peuvent aller butiner les quelques fleurs qui restent. On est très proche du Gardon, donc une rivière. C'était une vraie cassure, c'était un vrai problème que de voir s'installer un projet comme celui-là, inutile.
Alors ici, la pigrièche méridionale, une espèce protégée, a peut-être gagné une manche contre la pieuvre Amazon. Un autre projet a bien été retiré près de Nantes, il était très contesté, mais la France reste une terre relativement accueillante pour le commerce en ligne, trop sans doute pour Alma Dufour, des Amis de la Terre.
Tant qu'on n'aura pas une loi qui encadre les implantations des entrepôts de e-commerce et notamment celle d'Amazon, effectivement, ces problèmes se reposeront. C'est-à-dire qu'Amazon va battre en retraite sur un projet, va en catimini essayer de négocier un autre projet dans la même région et une nouvelle opposition se montera et des nouveaux recours, etc. sans fin. En fait, tant qu'on n'aura pas mis à plat des règles beaucoup plus justes et limité l'expansion de cet acteur extrêmement menaçant pour l'intérêt général.
Et en effet, des entrepôts de commerce en ligne peuvent toujours être implantés sur des terres agricoles. Amazon veut d'ailleurs doublé sa présence sur le territoire français grâce à un nouveau projet chaque année.
D'Amazon à Facebook, la femme qui accuse Facebook de préférer le profit à l'humain témoignait ce matin devant les députés français. Elle les appelle à protéger les lanceurs d'alerte. À propos de Google, la justice européenne confirme aujourd'hui une amende de 2,4 milliards d'euros pour pratiques anticoncurrentielles. Il fait un froid glacial. Il y a des soldats de part et d'autre de la frontière. La tension ne retombe pas aux confins de l'Union européenne, à la limite Pologne-Biélorussie. Des milliers de migrants y sont massés à cette frontière. L'Europe accuse la Biélorussie d'orchestrer l'arrivée de cette vague de migrants pour déstabiliser l'Union via des visas de transit. Alors quand on pense Biélorussie, on pense aussi Russie, premier allié de la dictature d'Europe de l'Est. La Pologne accuse Vladimir Poutine d'être derrière cette affaire. Angela Merkel lui demande d'intervenir. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter à Moscou en direct avec nous. Les chefs des diplomaties russes et biélorusses se sont vus ce matin. Et sans surprise, Sylvain, Moscou défend son allié.
Oui, effectivement, alors que les Occidentaux espéraient probablement quelque part que Vladimir Poutine puisse intervenir dans cette crise, eh bien la diplomatie russe a renvoyé la balle dans le camp des Européens et des Américains, d'ailleurs, ce matin à Moscou. Donc le ministre des Affaires étrangères biélorusse, Vladimir Makeï, qui avait fait le déplacement, a accusé les Européens de provoquer cette crise pour pouvoir justifier de nouvelles sanctions à l'égard de son pays. Et son homologue russe, Sergueï Lavrov, s'est dit totalement solidaire.
Nous avons décidé conjointement que notre coordination sur la politique extérieure va se poursuivre et nous allons approfondir nos réponses communes face aux activités hostiles que Washington et Bruxelles déclenchent contre la Biélorussie et la Russie. Et bien sûr, nous sommes d'accord sur le positionnement que nous devons avoir face à ces actions absolument hostiles qui sont contraires à tous les accords que nous avions passés.
Ce matin, le Kremlin a également jugé irresponsable les accusations de la Pologne, qui désigne Moscou comme le véritable maître d'œuvre en sous-main de l'afflux de migrants aux frontières européennes. Le porte-parole de Vladimir Poutine a expliqué qu'au contraire, selon lui, c'est l'Europe qui est en train de s'éloigner de ses idéaux humanitaires en laissant ces migrants à leur sort à la frontière. Le Kremlin qui ne peut évidemment pas ignorer que des vols ont été spécialement affrétés par la Biélorussie pour les amener jusque-là. Des vidéos, plusieurs témoignages qui circulent ici sur les réseaux sociaux semblent en attester assez clairement.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou, il est actuellement 15h22. L'actualité à l'étranger, c'est aussi ce chiffre. L'inflation en octobre en Allemagne, 4,5% au plus haut depuis presque 20 ans. Nous en venons à notre rendez-vous de milieu de semaine dans le 13-14.
France Inter. Le 13-14, Bruno Duvic.
La sélection cinéma du mercredi, bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Cela fait un an que les fans de Céline Dion attendent cela. Il a été maintes fois repoussé ce film à cause du Covid. Il arrive cette semaine sur les écrans, Aline, consacrée à la chanteuse, donc Céline Dion, film écrit et joué par Valérie Lemercier.
Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette ait continué de rendre le monde heureux, mais qu'à poursuivre ce qu'on a bâti tous les deux ensemble.
Voilà un petit extrait pour se chauffer la voix et se mettre dans l'ambiance de ce film qui se regarde, je vous préviens Bruno, avec des cœurs dans les yeux.
Oui.
Un film de fans pour les fans avec une Valérie Lemercier qui est époustouflante dans le rôle de son idole. La ressemblance va vous laisser KO, même brushing impeccable, même déhanché, les tenues de scène, tout est là. Et pourtant ce n'est pas une imitation, la comédienne qui réalise le film s'est même donné quelques libertés avec l'histoire pour pouvoir jouer avec la mise en scène. Ça tient souvent à un détail, à un clin d'œil caché. Le nom des personnages a aussi été modifié, ce n'est plus Céline Dion, mais Aline Dieu. On rit beaucoup, mais attention, ce n'est pas une parodie. Valérie Lemercier est une fan absolue de la chanteuse. Elle avait envie de se faire plaisir, en tout cas pas du tout de se moquer. Si vous n'êtes pas mordu de ces tubes, évidemment, la soirée risque d'être un peu longue. En revanche, pour les fans, c'est un peu le classique du dimanche soir avant l'heure. Toutes les grandes étapes de la carrière de Céline Dion ont été retranscrites. Beaucoup de scènes de live, beaucoup de chansons. Et bien sûr, l'incontournable René, l'artisan de ce destin hors du commun. René, l'amoureux incarné par le comédien Sylvain Vincent Marcel, un Québécois, comme 80% du casting.
Voilà donc pour Aline, également au cinéma ce mercredi, Nanni Moretti et son nouveau film Très Piani.
Un peu malmené au dernier Festival de Cannes, c'est dommage, car au niveau de la mise en scène et de sa vision de la société italienne, Nanni Moretti est toujours aussi pertinent. On parle beaucoup ici de consentement, de culpabilité, de ce que ça veut dire aujourd'hui par exemple d'être parent. C'est une histoire adaptée pour la première fois d'un roman. Nanni Moretti change un peu ses habitudes. Un immeuble, 3 étages, 3 familles, avec à chacune son psychodrame et ses tensions. C'est un film France Inter.
Et une fois n'est pas coutume, troisième conseil, vous revenez sur un succès de plateforme, un western d'un genre un peu particulier. Il vient de sortir en France sur Netflix après avoir séduit l'Amérique.
Alors oubliez, Bruno, tout de suite l'image classique du cow-boy blanc, le son du banjo, pour vous plonger dans l'univers de James Samuel, comédien-réalisateur qui signe ce petit ovni, The Harder They Fall, avec Regina King, Nathan Majors, Idris Elba et ses pistolets en or. Alors en écoutant la BO, j'adore, vous ne serez sans doute pas surpris si je vous dis que le film est produit par Jay-Z, okay, qu'il emprunte beaucoup à l'imagerie du rap. Une histoire de vengeance entre gangs, décalés, modernes, ultra-violents. Le genre de film que ne voudrait sans doute pas Tarantino, en dépit d'une fin un petit peu convenue.
Aline Trépiani et The Harder They Fall, les trois conseils ciné de Corinne Pellissier cette semaine. Drôle d'ambiance chez les filles du PSG, l'internationale française de Paris, Kera Amraoui, violemment agressée la semaine dernière. Son équipière, à la fois au PSG et chez les Bleus, Aminata Diallo, est placée en garde à vue. Aura-t-il envie de repartir là-haut après quelques semaines de repos bien méritées et s'envoler pour la Lune un jour, pourquoi pas? Thomas Pesquet, à Cologne, désormais, et en bonne forme.
D'aller en mission sur la Lune, je pense qu'il n'y a jamais eu d'Européens, il y a eu une poignée d'Américains qui sont allés sur la Lune. Moi, je pense que ce qui est enthousiasmant dans le projet qu'on a aujourd'hui d'y retourner, ce n'est pas juste d'y retourner pour planter un drapeau, ce serait vraiment d'y aller pour des raisons scientifiques comme on le fait sur l'ISS. Pour l'instant, je pense surtout à prendre un peu de repos, à prendre un peu de vacances, parce que la partie dans l'espace, évidemment, elle dure 6 mois, elle est très très intense, mais il faut voir qu'elle est toujours précédée par 2 ans d'entraînement qui sont au moins aussi intenses. Elle est suivie par 6 mois de remise en forme, de prélèvements scientifiques, de participation à des débriefings, etc. Donc en tout, c'est quand même à chaque fois 3-4 ans de boulot. Donc là, je l'ai enchaîné quasiment 2 fois de suite. Donc là, il va falloir que je prenne un peu de temps pour moi et pour mes proches. Et puis ensuite, on verra bien. C'est vrai qu'il faut se retrouver un challenge. Je connais beaucoup d'astronautes, j'en fais peut-être partie. Quand ils partent dans l'espace, ils disent « bon, cette fois, c'est la dernière fois, parce que quand même c'est dur, parce que quand même on souffre, parce que quand même on est loin des siens. » Donc j'en connais beaucoup qui disent « c'est la dernière fois ». Et puis après, au bout de 6 mois, ils ont tout de suite envie de repartir.
Eh oui, Thomas Pesquet au micro de Sophie Bécherel. Autre héros, Les Invalides, puis le Mont Valérien pour Hubert Germain. Après une vie très longue et chevaleresque, l'hommage de la France au dernier compagnon de la Libération, mort à 101 ans il y a un mois, cela commence aujourd'hui. Depuis 10h ce matin, le grand public peut se recueillir devant sa dépouille aux Invalides à Paris. Parole de personnes qui ont tenu à faire ce geste, au micro d'Éric Biégala.
Sous le dôme des Invalides, aux côtés de Lyautey, de Vauban, de Foch et de Napoléon, le cercueil d'Hubert Germain est là pour quelques heures encore. Edith, la cinquantaine, est venue lui rendre hommage.
Il représentait la personne qui a opposé une résistance pour que la France reste la France. Et je suis extrêmement reconnaissante pour tous ceux qui ont eu une telle abnégation pour défendre notre pays.
René Groussard, 92 ans, lui-même médaillé de la résistance, avait tenu lui aussi à venir aux Invalides aujourd'hui.
Ce qui est magnifique, c'est ce qu'ont fait tous ces hommes qui entouraient le général de Gaulle. Et Hubert Germain en était un, qui représente la France vraiment combattante.
Quant à Louis, 20 ans, c'est l'exemple à suivre qu'il a fait venir.
Il a refusé de passer les écrits de Naval, il a rendu feuille blanche, parce qu'il savait que la guerre avait été perdue tout simplement et qu'il voulait s'engager dans la résistance. Je suis pas certain qu'on ait cette culture d'engagement et de don de soi. Il y a qu'à voir par exemple l'engagement même dans l'armée qui diminue depuis quelques années. Et ça prouve finalement qu'il y a peut-être un problème en tout cas de ce côté de cet engagement.
Hubert Germain sera inhumé demain au Mont-Valérien aux côtés des 16 autres combattants inhumés dans la crypte. C'était le dernier des compagnons de la Libération.
Et l'importance du Mont-Valérien dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, ce sera le vif de l'histoire de Jean Lebrun juste avant 14h. Pour le moment, à suivre, la météo puis l'invité du 13-14.
Bon Maurice, t'as le pied de biche ?
Oui, mais...
Mais quoi encore ?
Je le sens pas. Voilà, j'ai encore fait mon cauchemar avec l'installateur Omiris qui débarque, il met des détecteurs partout. Le gars, il est tellement pro là, j'en ai des sueurs dans le dos.
Arrête avec Omiris, tu vas nous porter la poisse.
Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains.
Omiris, un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Glenafrique, le nouveau roman de Karine Giebel vient de paraître. Une fois de plus, Karine Giebel nous plonge au plus profond de l'âme humaine. Léonard est différent, exclu d'une société qui ne veut pas de lui. Son quotidien, les insultes, la haine. Ce qu'il aimerait, c'est fuir, être ailleurs, loin d'ici, à Glenafrique. Être en enfer, et rêver d'ailleurs. Glen Afrique de Karine Giebel, un roman d'une émotion rare, aux éditions Plomb.
Le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Jean-Pierre, la vigilance orange, pluie, inondation est maintenue en Corse.
Oui, effectivement, la Corse va rester sous l'influence de la dépression nommée Blas, située entre l'Algérie et la Sardaigne. L'activité pluvio-orageuse va se renforcer cet après-midi sur l'île de Beauté et plutôt vers la partie orientale de l'île. Et puis, les pluies vont déborder sur les régions méditerranéennes en étant plus marquées vers le Roussillon et les Pyrénées orientales. Il va même neiger vers 2200 mètres sur l'est des Pyrénées et des Alpes du Sud. Le ciel sera voilé entre midi Pyrénées et Rhône-Alpes. Le long des côtes de la Manche, ça sera très nuageux avec quelques gouttes de pluie. Puis dans les autres régions, votre après-midi sera souvent ensoleillé, excepté vers l'est de l'Île-de-France, mais aussi vers la plaine d'Alsace et le long de la Saône, où les grisailles présentes ce matin auront bien du mal à se dissiper.
Jean-Pierre Hameau, Météo France, tout de suite l'invité du 13-14.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Et cette question, y a-t-il une vérité judiciaire d'un côté et une vérité médiatique et sociétale de l'autre dans les affaires d'agression sexuelle? Hier, le journal Libération publiait le témoignage de 8 femmes qui accusent à nouveau et à visage découvert pour 7 d'entre elles, Patrick Poivre d'Arvor, d'agression sexuelle. L'enquête a pourtant abouti à un classement sans suite pour prescription ou insuffisance de preuves. 8 plaintes avaient été déposées, 20aine de femmes ont témoigné au fil de l'enquête. Et faut-il préciser que l'ancien présentateur du 20h nie la moindre relation sexuelle sous contrainte. Classement sans suite donc, comme dans 73% des cas. Faut-il en conclure que beaucoup d'agresseurs échappent à la justice, faute de preuves, faute de moyens ou parce que les enquêtes ne sont pas convenablement menées? La journaliste Marine Turki, auprès de qui l'actrice Adèle Haenel notamment avait témoigné, publie aux éditions du Seuil « Faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations MeToo ». Qu'est-ce qui peut et doit changer dans le fonctionnement de la justice? Et au-delà des prétoires, quel rôle pour les médias, les associations dans cette vague MeToo? J'attends vos questions au 01 45 24 7000 et via l'appli France Inter, rubrique Réagir. Bonjour Marine Turki.
Bonjour.
Et qu'est-ce que ces nouveaux témoignages dans Libération apportent de votre point de vue?
Il montre les limites de la justice, d'une part, la prescription, mais aussi ce fameux faute de preuve qui donne le titre à mon livre. Et puis, il montre aussi les limites de ce que n'a pas fait la société, ce que n'a pas fait TF1, par exemple, qui n'a peut-être pas joué son rôle de protection des salariés, d'obligation de protection des salariés. Hélène Devinck, une des plaignantes de l'affaire PPDA, qui témoigne dans mon livre, le dit, si 23 témoignages, parce qu'il y a 23 témoignages dans cette enquête judiciaire, si 23 témoignages, ce n'est pas une preuve, qu'est-ce qu'une preuve? Qu'est-ce qui peut suffire? Et je crois qu'aujourd'hui, les médias ont un rôle à jouer parce qu'en fait, le fait qu'autant de témoignages se déversent dans l'espace public et notamment dans des enquêtes journalistiques montre, c'est un révélateur des dysfonctionnements de la justice. On voit aujourd'hui que on ne devrait pas recevoir, nous par exemple à Mediapart, 1 millier de témoignages en 2 ans de violences sexuelles. Oui, 1 millier, j'ai fait le compte, on est à près d'1 millier de témoignages. C'est un flot continu qui ne s'arrête pas et c'est ça qui m'a interpellée, c'est le point de départ de ce livre. Finalement, les gens qui nous écrivent soit sont déçus de leur procédure judiciaire qui a été classée sans suite, 70% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite à l'étape du parquet, mais certaines n'envisagent même plus la justice comme une option, et ça doit nous alarmer. Donc j'ai voulu vérifier dans ce livre finalement, est-ce que cette défiance, elle est justifiée? Est-ce que la justice met tout en œuvre pour faire émerger une vérité judiciaire, pour faire émerger les preuves?
Ouais, et vous donnez la parole à tout le monde. Restons un instant sur cette affaire PPDA et ces témoignages dans Libération. Au fond, on aboutit à une situation où on a 2 vérités. Il y a une vérité judiciaire, il y a une vérité médiatique. Ça pose pas problème, ça, tout de même, à une époque où dans le débat politique, on voit bien que la question déjà que la vérité est problématique.
Une infirmière des UMJ, les unités médico-judiciaires de l'Hôtel Dieu à Paris, le dit dans le livre. Elle dit, la vérité judiciaire, ce n'est pas forcément la vérité, c'est une vérité, mais c'est, est-ce qu'on a les preuves? Et je crois que c'est cette pédagogie qu'il faut faire aussi auprès des personnes qui portent plainte. La justice, elle doit démontrer avec l'intentionnalité de l'auteur, mais aussi avoir les éléments. Et donc, un classement sans suite, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne croit pas les personnes qui portent plainte, ça veut dire qu'on n'a pas pu démontrer les choses. Les médias, ils apportent d'autres dimensions. Il n'y a pas que la dimension l'action judiciaire et pénale. Tout un tas de questions se posent dans ces affaires. Morale, éthique, déontologique, politique. Je développe dans le livre l'affaire Gérald Darmanin qui pose plein d'autres questions que la question pénale. Donc je crois que là où le rôle de la justice peut s'arrêter avec la prescription, le rôle des médias peut lui se poursuivre. On n'est pas soumis, nous, à la prescription. Et je crois que la prescription n'empêche pas la parole, n'empêche pas le hashtag, la tribune, le témoignage et tout un tas d'autres choses. Mais surtout, ces enquêtes journalistiques, et je le montre dans le livre, elles peuvent être fouillées, elles peuvent être complexes, elles peuvent être détaillées et elles sont respectueuses. Elles doivent l'être du contradictoire.
Une enquête journalistique, ça n'est pas un message lapidaire sur les réseaux sociaux, ne pas confondre. C'est aussi ça que vous dites.
Oui, parce que derrière l'accusation de tribunal médiatique, j'y reviens dans le livre assez longuement, on voit qu'il y a une confusion qui est volontairement entretenue. Entre d'un côté le journalisme d'information, des enquêtes fouillées, très détaillées, très étayées, et puis de l'autre les réseaux sociaux, mais aussi le journalisme d'opinion, les éditorialistes qui vont émettre des opinions sans forcément avoir connaissance du dossier. Donc je crois que j'ai voulu montrer dans ce livre qu'on pouvait faire un travail sérieux, détaillé, qu'une partie de la presse le fait, respectueuse du contradictoire, et trouver finalement un ensemble de témoignages qui va venir conforter un premier témoignage d'une personne qui dénonce des violences sexuelles.
Vous donnez aussi la parole à ceux qui redoutent que se constitue au fil des années un tribunal médiatique, notamment l'avocate Marie Dauzé. Alors je voudrais vous soumettre cette citation qui est dans votre livre. Un mis en cause qui bénéficie d'un classement sans suite, d'un non-lieu ou d'un acquittement serait en réalité un coupable dont on n'a pas pu prouver la culpabilité. Nous avons de belles années devant nous en termes de lynchage médiatique, dit l'avocate. Qu'en dites-vous ?
Mais on est en plein dans le sujet, mais je reviens notamment sur dans le livre sur la présomption d'innocence.
Alors oui, c'était ma question suivante.
Et c'est un débat intéressant parce que finalement, présomption d'innocence, comme le dit très bien un magistrat dans le livre, on insiste surtout sur innocent et pas tellement sur présumé. Il explique que la présomption d'innocence, c'est asseyez-vous monsieur, je vais vous démontrer que vous êtes coupable et si je n'y arrive pas, il se passera rien. C'est comme ça qu'il le définit, c'est le premier avocat général de la Cour d'assises de Paris. Je trouve que c'est un débat intéressant, mais je trouve que la présomption d'innocence, et beaucoup le disent, des magistrats aussi hein, dans le livre, elle est souvent dévoyée et sortie en fait de son contexte. La présomption d'innocence, ça n'a jamais été de pouvoir rien dire. Ça n'a pas été une assignation au silence. Et ce qui est intéressant,
et ça ne vaut que dans le domaine pénal.
On rejoint la question des médias, c'est que finalement, un mis en cause, s'il s'estime diffamé, s'il estime qu'il est atteint dans sa présomption d'innocence, il peut actionner des leviers judiciaires, il peut saisir la justice. Et bien souvent, ils ne le font pas. On a vu Nicolas Hulot retirer sa plainte en diffamation contre le journal Hebdo. On a vu tout récemment Darius Rojbin, le présentateur d'LCI, retirer lui aussi sa plainte contre le journal suisse Le Temps, qui avait révélé tout un tas de témoignages l'accusant de harcèlement sexuel.
Et là aussi,
donc
ça a été classé.
Je trouve que c'est intéressant. Ces leviers judiciaires ne sont pas utilisés par les mis en cause.
Alors, qu'est-ce qui cloche dans le fonctionnement de la justice ? Vous le disiez, 73% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite en France. Rappelons, au départ, il y a une plainte, le parquet est saisi, la police enquête, moins en profondeur que quand un juge d'instruction est saisi. Il y a quatre options, soit on classe, soit on confie l'affaire à un juge, on la renvoie devant un tribunal directement, ou on propose des alternatives. Le dossier est donc classé dans 69% des cas pour viol, 75% pour agression sexuelle, 83% pour harcèlement. Qu'est-ce qui cloche dans cette enquête préliminaire ? Alors vous dites d'abord, manque de temps, manque de moyens.
Oui, il faut donner des chiffres là parce que c'est important. Le budget de la justice.
On a déjà donné pas mal.
Le budget de la justice en France, je donne juste un chiffre.
Allez-y.
C'est 69 euros par habitant, c'est 131 euros en Allemagne. Voilà, un chiffre. Un autre chiffre très rapidement, l'OCRVP, qui est le service d'élite de lutte contre la pédocriminalité, qui est à Nanterre, il compte 17 enquêteurs. En Grande-Bretagne, ce même service, c'est 321 enquêteurs. Mmh. On est au niveau de la Roumanie. Et ça, c'est des chiffres que donne l'OCRVP lui-même. Les policiers le disent dans le livre, il manque de moyens. Oui. À Lyon, la brigade départementale de la famille, j'ai rencontré le chef de cette brigade qui dit on ne peut plus traiter correctement les dossiers, on a 3000 dossiers par an, donc oui je vous le dis, je ne vais pas vous mentir, dit ce policier, on ne peut pas accorder le même temps à tous les dossiers, donc il y a un tri qui s'effectue. Et comment s'effectue ce tri ? Il s'effectue d'abord selon l'urgence de l'enquête, de l'affaire, mais il s'effectue ensuite selon des critères beaucoup plus subjectifs qu'a démontré une chercheuse que je cite dans le livre, Océane Perronard. On auditionne beaucoup moins de témoins pour les affaires de viols conjugaux par exemple que pour une affaire de viol par un inconnu. C'est très intéressant en fait, ces biais qu'on voit dans les enquêtes. Mais surtout, on enferme ces affaires dans un parole contre parole. Et ce que je démontre dans le livre, et ce que dit d'ailleurs très bien un avocat qui est cité dans le livre, c'est que ce sont souvent des paroles au pluriel contre paroles au singulier. Et est-ce qu'on essaie de faire émerger ce faisceau d'indices concordants qui permettrait de faire émerger une vérité ? Je ne crois pas. J'ai passé au crible 9 affaires dans ce livre, mais plus largement à Mediapart, j'épluche des procédures judiciaires. Comment peut-on imaginer faire émerger une vérité judiciaire avec le peu d'actes d'enquête qui sont faits dans ces enquêtes préliminaires ? faire. On auditionne la plaignante, le mis en cause, on va regarder les antécédents judiciaires, une expertise psychologique pour la plaignante.
C'est ça, vous dites que bien souvent on enquête plus sur la plaignante que sur le mis en cause.
Oui, parce que l'enquête préliminaire du parquet va d'abord se concentrer sur ce qu'ils ont, c'est-à-dire la plaignante. La voix, c'est, une magistrate le dit très bien dans le livre, c'est le premier corps, la première voix qu'on a, c'est la plaignante. Le problème, c'est comme ces affaires ne passent pas l'étape du parquet, qu'elles ne sont pas, elles ne font pas pour beaucoup l'objet d'instruction par un juge indépendant. Qu'est-ce qui se passe? On a simplement le temps d'auditionner l'entourage de la plaignante, très peu du mis en cause. Et on dit qu'on le fera à l'instruction, mais 73% des plaintes ne passent pas l'étape du parquet. Donc ce tri, ce tamis du parquet, il est évidemment très important. Mais je voudrais donner un élément que je révèle dans le livre. Le ministère de la Justice, en 2018, ils ont eu des chiffres extrêmement alarmants. 44% de baisse des condamnations pour viol, alors que dans le même temps, les plaintes pour viol augmentent de 40%. Ils se sont alarmés en interne à la chancellerie de ces chiffres. Certaines ont voulu, auprès de la garde des Sceaux, mener une grande enquête sur les dossiers classés, rouvrir des enquêtes et dire qu'est-ce qu'on a mal fait, on regarde les dysfonctionnements. Et bien ce que je révèle dans le livre, c'est que cette enquête a été enterrée, cette étude interne. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Intérieur a quitté très rapidement ses réunions, mais qu'il y a eu des résistances. On ne veut pas aller voir les dysfonctionnements, en fait. Et des magistrats le disent également dans le livre.
Il y a aussi des plaignantes qui mentent. Vous abordez ce sujet. Il y en a aussi.
Alors c'était important pour moi dans ce livre de ne mettre aucun sujet sous le tapis. Et effectivement, les fausses déclarations, on l'entend souvent, on va dire, elles vont mentir, les plaignantes, il y a ce risque. Donc moi j'ai posé la question déjà à un certain nombre de magistrats et magistrates. Est-ce que dans votre pratique c'est quelque chose que vous rencontrez? Même question pour les avocats, même question pour les policiers. Ce que beaucoup me disent, et c'est confirmé par des statistiques qui existent à l'étranger, c'est que ça représente une minorité infime des dossiers. Et que d'ailleurs,
4%,
souvent,
c'est ça ?
C'est entre 2 et 8% selon ouais. Comment on comptabilise. Il y a aussi une bataille de chiffres. Mais je cite une magistrate qui dit « Moi, j'ai dû avoir un cas dans toute ma carrière, en 20 ans. » Donc c'est extrêmement minoritaire. Et surtout, une policière le dit très bien dans le livre, il faut comprendre en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces fausses déclarations? Et souvent, d'ailleurs, à l'origine, on trouve un signalement d'un tiers. Ce n'est pas forcément la plaignante qui est à l'origine, en fait, de cette enquête. Mais surtout, les policiers le démontrent assez vite. Donc, on agite cet argument, alors que les magistrats eux-mêmes disent que c'est extrêmement minoritaire.
Claire-Marie est avec nous au standard. Bonjour, Claire-Marie.
Bonjour.
Vous êtes la maman d'une jeune fille de 21 ans qui s'est fait violer à 14 ans. Et même les victimes, dites-vous, et cela vous concerne de près, ont intégré que la justice ne pourra rien pour elle, en quelque sorte.
Oui, voilà, effectivement. C'est quelque chose... ce drame nous accompagne depuis 7 ans, hein, toute notre famille, on va dire. Parce que malheureusement, notre fille, elle vit avec ça depuis 7 ans. Oui. Et nous aussi, par ricochet. Et effectivement, elle a intégré ça. Quand c'est arrivé, qu'elle a pu enfin nous le dire, on avait appelé la cellule des mineurs victimes pour essayer d'avoir des informations, etc. Et on a parlé de judiciarisation avec notre fille, du fait qu'elle pouvait déposer plainte, parce que pour nous, c'était quelque chose de très important. Mais pour elle, ce qui était terrible, c'est de se dire qu'éventuellement, si elle se décidait, on pourrait lui renvoyer. Mais finalement, il n'y a pas de preuve dans cette histoire. Donc, une sorte de non-lieu. Et elle l'a intégré comme un paramètre de son histoire. Et ça, je trouve ça très grave.
Et donc,
en fait, les victimes intègrent ça.
Elle ne veut pas porter plainte.
Non, toujours pas. Toujours pas.
Après votre enquête, merci beaucoup, Claire-Marie, de nous avoir appelé. Après votre enquête, Marine Turki, est-ce que vous diriez à cette jeune femme, il faut porter plainte?
Alors, j'aborde dans le livre, justement, cette question des injonctions à porter plainte. Parce que le monde judiciaire lui-même le dit que... On incite tout le monde à porter plainte dès que, effectivement, il ou elle va dénoncer des violences sexuelles. On explique que c'est la seule manière de se réparer, de traiter ses affaires. Des avocats le disent très bien dans ce livre, il faut trouver des alternatives à la plainte. Parce qu'on peut pas d'un côté avoir ces injonctions à porter plainte et de l'autre avoir plus de 70% de plaintes classées sans suite à l'étape du parquet. Il faut trouver des alternatives à la justice pénale et d'incarcération. Il faut expliquer comment va se passer aussi une procédure judiciaire. Donc c'est très difficile aujourd'hui d'expliquer qu'il faut porter plainte quand on voit le traitement qui va être réservé, les procédures très longues. Je crois que les histoires de ce livre le montrent évidemment.
Ouais. Alors les alternatives, venons-y. D'abord, il y a tout de même une pratique au sein de la justice qui se développe. Et c'est ce qui a lieu par exemple dans l'affaire du Hamel. La justice ouvre une enquête, même si elle sait dès le départ qu'il y a prescription, pour conclure noir sur blanc que oui, les faits sont établis mais prescrits. Ça, c'est pour les cas de prescription.
Oui, c'est intéressant de voir ce qui a été fait à ce niveau-là. On l'a vu dans l'affaire...
Je précise qu'il nous reste 30 secondes.
On l'a vu dans l'affaire Denis Baupin, en fait, par exemple. Le parquet fait un communiqué pour dire il y avait des éléments, mais c'est prescrit. Ouais. Pour beaucoup de victimes, qu'il n'y ait pas rien, que ce ne soit pas une porte fermée que propose la justice, c'est intéressant. Ouais. Il y a des avocats qui sont vent debout contre ça, donc c'est un débat que je fais vivre dans le livre. Mais je crois que c'est intéressant de voir comment aujourd'hui, on ne dit plus circuler, il n'y a rien à voir. On va regarder, on va enquêter, et c'est une forme de réponse, parce que souvent les victimes, elles veulent une forme de reconnaissance des faits, de la société et de leur entourage.
Et il y a aussi des solutions en dehors de la justice. On a parlé des médias au début de cet entretien, le rôle des associations également. Merci beaucoup Marine Turki d'être passée dans les studios de France Inter. Faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations MeToo. C'est publié aux éditions du Seuil. Il est 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Aujourd'hui dans le vif, le 11 novembre 45.
Et le 11 novembre prochain sera son décalque. On transférera au Mont-Valérien l'ultime compagnon de la libération.
La place du Mont-Valérien dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Le feuilleton, une semaine à la ferme de Surminette près de Rennes pour évoquer la transmission des exploitations agricoles. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Nous allons écouter le boss dans C'est une chanson aujourd'hui. Bruce Springsteen, il vient de sortir en France le livre qu'il a écrit avec Barack Obama, Born in the USA, comme la chanson. On attend une tournée, on espère une tournée, et c'est un fan qui vous en parle, l'écrivain et journaliste indépendant Alexandre Duyck.
Dont le roman Augustin paraît demain en poche. L'histoire d'Augustin Trébuchon, le tout dernier soldat français mort lors de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918 à 10h45, soit 5h30 après la signature de l'armistice, Augustin, berger né en Lozère, devient un héros sous la plume d'Alexandre Duyck. Mais c'est donc surtout de Bruce que nous avons parlé. Springsteen, il l'a vu une quinzaine de fois en concert.
Je le vois chaque fois qu'il vient en France, je suis allé le voir à Turin et un jour j'ai cassé ma tirelire. C'était une période de ma vie où j'allais pas très bien et je me suis fait un cadeau, je suis allé le voir dans le New Jersey, dans son fief. Il faut avoir vu Bruce Springsteen un jour sur scène. Moi, j'ai des copains qui étaient très sceptiques, qui connaissaient pas bien. Ils l'ont vu sur scène au Stade de France ou à Bercy. Ils sont revenus, ils m'ont dit « Ah ok, j'ai vu la lumière en fait ».
Vous avez vu la lumière plusieurs fois.
Moi, je l'ai vu depuis mes 15 ans, quand j'ai appris l'existence de Bruce Springsteen au JT de Antenne 2 à l'époque.
Le rocker le plus adulé des années 80 est tout de même attendu ce week-end dans la région parisienne. Il vient de se produire à Montpellier et Saint-Étienne. Saint-Étienne, où l'homme de scène a donné 10 millions anciens aux chômeurs de la ville.
Moi, j'ai une autre passion dans la vie qui est la Saint-Étienne, même si c'est compliqué en ce moment footballistiquement. Et de voir ce chanteur dont j'avais jamais entendu parler au stade Geoffroy Guichard et faire ce concert pour lequel il avait donné une grosse partie de la recette aux chômeurs de la ville, qui était en une crise Manu France terrible, ça m'a parlé tout de suite, et puis depuis, ben, ça m'a jamais quitté en fait.
Here in Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny Heaton found the ore that was lined in Yellow Creek. They built a blast furnace, they were along the shore, and they made the cannonball. That helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down. Here, darling, in Youngstown.
Et cette chanson que l'on entend, Frédéric, c'est Youngstown.
Un titre sorti en 1995 sur le 11e album de Bruce Springsteen. Il y a question de la vie ouvrière et c'est la chanson préférée d'Alexandre Duyck.
Elle raconte une ville qui s'appelle Youngstown, qui existe vraiment dans l'Ohio, qui a été la fierté américaine pour notamment fabriquer des boulets de canon. Et cette ville est totalement tombée à l'abandon, totalement victime de la mondialisation, de la désindustrialisation. Et il vient raconter la vie des gens de cette ville et la déchéance de cette ville. Il y a une phrase incroyable dedans où il dit il est dans la peau d'un gars qui trouve pas de travail et il s'adresse au patron et lui dit t'es en train de m'expliquer que le monde a changé, mais tu m'expliques ça une fois que je t'ai rendu riche, suffisamment riche pour oublier jusqu'à mon nom. Et c'est sublime quoi. C'est un cours d'économie en fait, de sociologie, de philosophie, de poésie, c'est tout ça à la fois quoi.
My sweet Jenny, I'm sinking down. Dear darling, in Youngstown.
Moi, si j'ai fait ce métier de journaliste, qui plus est en presse écrite et beaucoup de reportages, c'est d'abord pour aller raconter des histoires oubliées. J'étais encore hier dans les Ardennes pour travailler sur un thème qui s'approche de ça, la désindustrialisation, certaines formes de pauvreté. Et c'est une thématique qui, moi, me touche beaucoup. Pour moi, c'est vraiment l'essence du journaliste. C'est juste de prendre un billet de train et d'aller voir des gens qui ont une réalité à raconter.
Et il y en a qui la chantent.
Et qui la chantent merveilleusement bien. Il y a un côté novelliste chez lui. Il raconte des nouvelles comme le font certains grands auteurs de nouvelles américains qui, en trois pages, vous ont raconté une histoire toute bête en apparence, mais qui dit beaucoup sur l'état de la société, sur une ville, sur un boulot, de la part d'un chanteur qui est multimillionnaire, qui est une des plus grandes stars de la musique de l'histoire, qui n'a pas oublié d'où il vient, ses racines extrêmement modestes, et qui n'a jamais oublié cette thématique-là dans son œuvre. Je trouve ça magnifique, en fait. When I die, I want a part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand the fiery furnaces of hell.
Youngstown de Bruce Springsteen, c'était donc Frédéric, le choix de l'écrivain, journaliste et admirateur Alexandre Duyck.
Dont le roman Augustin paraît donc demain chez Mon Poche.
À jeudi, Frédéric Pommier, à vendredi même, puisque demain, jeudi, eh bien, nous serons à Crolles, près de Grenoble, pour parler de l'importance des semi-conducteurs. Le 13-14, à nouveau en déplacement. Et pour le feuilleton, nous revoilà à la ferme de Surminette, pas très loin de Fougères et Rennes, en Bretagne, pour évoquer, grâce au reportage de Thibault Lefebvre, la transmission des exploitations agricoles. Claude Juinier a dirigé pendant des années la ferme avant de la céder au moment de la retraite. Ses 5 enfants ne voulaient pas reprendre. C'est donc en dehors de la famille qu'ils sont allés chercher le repreneur. On l'a entendu hier, il s'appelle Stéphane, 42 ans. Il exploite les terres en bio et circuit court. Mais nous n'avons pas encore entendu le père, Claude, qui vit toujours dans le coin. Il revient à la ferme avec Thibault pour se réjouir qu'elle vive encore, mais constater aussi que les pratiques agricoles ont beaucoup changé. C'est l'épisode 3 du feuilleton.
Eh ben, je vous suis.
J'ai laissé ma porte ouverte, mais de toute façon, bon, il n'y a rien à voler. Alors. Ben non, parce que je n'habite plus là maintenant. Moi, j'habite au près du bourg de Saint-Hilaire. Ça, c'est toute l'habitation jusqu'ici. Les cases où il y avait des cochons et là un fournil avec un four qui servait autrefois à faire le pain pour les deux fermes. Parce que la voisine, ses parents habitaient juste à côté. Quoi.
Donc Gisèle, alors, qui vous accompagne ce matin.
Oui.
Et donc c'est vous, ici, qui avez pratiquement tout aménagé.
Oui, oui.
C'était une exploitation à l'ancienne.
Oui, ben oui, c'était à l'ancienne. Je n'avais pas un gros tracteur, un 65 chevaux. Et puis maintenant, c'est des hectares qu'il faut. Et il n'y en a jamais assez, quoi. Mais enfin, bon, il y en a que c'est peut-être un peu la folie des grandeurs. Nous, c'était pas le cas. Faut pas aller plus loin qu'on ne peut non plus. Hein.
Un contexte, une atmosphère très concurrentielle. Si je caricature, c'était qui allait avoir le plus gros tracteur ?
Ah, il a été un temps, oui. Il y avait une question de jalousie entre certains voisins. Tiens, il a acheté ça, ben je vais en faire autant.
Vous avez décidé de vendre, c'était il y a combien de temps ?
On a vu ça avec mes jeunes, ben oui, que voulez-vous ? De toute façon, il fallait garder du terrain aussi et que le tout parte ensemble. Si on vend le terrain et pas les bâtiments restent en ruine, ça reste à l'abandon. Il y a des amateurs de terrain là pourtant. Oula, oui alors.
Vous avez décidé de faire autrement.
Oui, nous quand on reste dans notre fond de trou, comme on dit chez nous, ben on ne suit pas forcément la vie évolutive qui se passe un peu plus loin dans les environs quoi.
Votre repreneur Stéphane a une quarantaine d'années, il se lance à son tour dans une agriculture.
Il connaît le terrain maintenant. Il a refait quelques semis, quelques petites implantations et puis. Apparemment, il a un bon cheptel, ça tourne assez bien, son affaire, tant mieux.
Vous, Gisèle, vous avez toujours vécu ici ?
Moi, je suis l'ancêtre des lieux. L'évolution que moi j'ai pu constater, effectivement, c'est que il y avait deux fermes, il n'y en a plus qu'une. Et les terres que mes parents exploitaient ont été vendues pour agrandir d'autres fermes. Donc ça a failli être la même chose ici. Les champs de maïs sont énormes, les champs de blé sont énormes. Et les engins, vous voyez les engins qui passent, maintenant ils prennent toute la route. Quoi, hein.
Ça a des conséquences sur la vie, sur le territoire ?
Nous, on vivait dans un milieu agricole. avec des animaux autour de nous, avec une vie. On voyait des vaches dans les champs. Maintenant, on ne voit plus de vaches dans les champs. Je suis très attachée à cette vie et de voir Stéphane reprendre cette ferme et savoir que cette ferme reste un siège d'exploitation, pour moi, c'est énorme. Arriver de 3 enfants ici, c'est un lieu qui renaît, quoi. C'est mon enfance qui revient quelque part, je pense. Avec un lieu où moi-même j'ai été enfant et de voir des petits-enfants courir par là et de dire que ben, ça continue.
Le feuilleton de Thibault Lefebvre réalisé par Lucie Lemarchand, le dernier épisode, ce sera vendredi.
France Inter. Le 13-14.
Comment entretenir, mettre en scène le souvenir? La question s'est posée dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Demain, aux portes de Paris, au Mont-Valérien, sera transférée la dépouille du dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, un mois après sa mort à 101 ans. Avant cela, Emmanuel Macron lui rendra hommage sous l'Arc de Triomphe. Jean Lebrun, nous serons dans le prolongement des cérémonies du 11 novembre 45, tel que les avait voulu De Gaulle, alors chef du gouvernement provisoire.
Oui, en 45, la France libérée multipliait les cérémonies commémoratives. Et chaque commune implorait le général de venir les présider, parce que de tous les titres que mérite De Gaulle, le plus juste, c'est le symbole. La France libre, c'était une affaire de symbole, elle n'avait pas de puissance. Mais il était aussi une force politique qui voulait imposer son propre calendrier mémoriel, c'était le Parti communiste, que les scrutins d'après la Libération pouvaient créditer d'un autre titre, premier parti de France. Et le parti multipliait également les cérémonies dédiées à ses conseillers municipaux de Paris, à ses fusillés de Châteaubriand, à ses fusillés du Mont-Valérien. Le parti et le général avaient des vues croisées sur ce fort du Mont-Valérien, lieu d'ermitage et de pèlerinage catholique devenu lieu de détention sous l'occupation. Les communistes entendaient y célébrer les leurs, dans la clairière, où les Allemands ont fusillé quelques 1000 personnes. Le général, lui, voulait faire de ce lieu d'oraison, qui s'était transformé en lieu de détention, un symbole des symboles. Alors le gaullisme a ceci de différent du pétinisme qui ne procède pas par exclusion de la communauté nationale, il est au contraire inclusif. De Gaulle voulait englober la mémoire communiste dans la mémoire nationale et c'est dans cette intention qu'il s'est déplacé au Mont-Valérien dès le 11 novembre 1944 pour déposer une gerbe en forme de croix de Lorraine et un peu plus tard, il a lancé un projet de monument qui, sur le site, rassemblerait les mémoires de toutes les résistances.
Et dans son dispositif, le 11 novembre 45 est central.
J'emprunte beaucoup à Serge Barcellini, historien et maintenant président du Souvenir français, qui a consacré au sujet une étude. C'est le 10 novembre que 15 dépouilles sont transférées en 1945 aux Invalides. Leur identité a été rendue publique après un tirage au sort très encadré. 3 résistants de l'intérieur, dont une femme, Bertie Albrecht, 2 déportés, dont une femme, René Lévy, un prisonnier de guerre fusillé en Bavière, et des combattants de toutes les campagnes, dont celle de 39-40, et parmi eux, 3 tirailleurs qui seront bientôt 4 Africains sur 15. C'est un chiffre qui dit beaucoup, il approche même de la réalité de la composition des troupes qui ont participé à la libération.
Et le 11 novembre 45, le cortège des 15 dépouilles part donc des Invalides pour rejoindre l'Arc de Triomphe.
Et De Gaulle prononce sous l'arc le premier discours que celui-ci ait connu depuis l'inhumation du soldat inconnu. Emmanuel Macron, demain, prendra la relève. L'intention du général, si je reviens à 45, elle est claire. Il veut tenir ensemble les souvenirs des 2 conflits qu'il conçoit comme une unique guerre de 30 ans.
Puis le cortège part pour le Mont-Valérien, qu'il atteindra à la lueur des torches.
Ben oui, parce que c'est une scénographie grandiose qui a été mise en place par le ministre Henri Freinet, l'ancien chef du mouvement combat, et qui associe aux torches le son des canons et le glas qui sonne dans toutes les églises. Les synagogues et les temples protestants participent pareillement, et le général n'a pas négligé de faire un signal aux alliés, aux Américains, hein, plus qu'aux Soviétiques. « Soldats de la libre Amérique, jamais nous ne vous oublierons, pensez à nous quelquefois ». Alors ce 11 novembre 1945, c'est une grande machinerie intégratrice. Encore quelques semaines, et en janvier 1946, en désaccord avec les partis qui dominent l'Assemblée nouvellement élue, le général va démissionner de son poste de chef du gouvernement provisoire. Et les communistes réinvestiront le Mont-Valérien en se réappropriant la clairière des fusillés. Tandis que les gouvernements de la 4e République, vous savez, dit de troisième force entre communistes et gaullistes, tentent différentes initiatives afin d'y prendre pied. Et dès le 18 juin 1946, le général, au milieu des compagnons, conduit seul le deuil de l'ordre de la libération, jusqu'à son retour au pouvoir qui permet le retour aussi du rôle rassembleur du Mont Valérien et l'édification, enfin, du monument prévu depuis 1945 et dans les entrailles duquel entrera demain le cercueil d'Hubert Germain.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Bonjour Mathieu Vidard.
Bruno, bonjour.
La Terre au carré dans quelques minutes. Quel est le programme, s'il vous plaît?
On fera le point sur l'obsolescence programmée de nos objets.
À tout de suite.
En ce moment, comme je ne peux pas aller voir maman, je l'appelle en visio sur sa tablette ardoise. Ça la rassure. Et je dois avouer que moi aussi.
Avec la tablette ardoise proposée par La Poste, les seniors découvrent la joie d'être connectés à Internet et à ce qu'ils aiment. Et jusqu'au 31 janvier, la tablette est à 199€ hors prix de l'abonnement au service ardoise. Une solution mon bien vivre à retrouver à La Poste ou sur ardoise.com.
Le progrès, c'est quoi? Le progrès pour une entreprise, c'est savoir se renouveler, se réinventer. C'est être capable de sortir de sa zone de confort pour affronter les difficultés ou répondre à de nouveaux défis. Ada Gershouch est handicapée. Être en dehors de sa zone de confort, c'est son quotidien.
Je m'appelle Ada, je suis coach en entreprise. Le progrès, c'est moi.
AGFIP. Ensemble, montrons que les personnes handicapées font progresser les entreprises. Du 15 au 21 novembre, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Témoignez de votre engagement sur activateurdeprogrès.fr.
Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de fille qui vomit dans le caniveau. Personne ne s'écroule par terre. Et il n'y a même pas de baston devant un bar. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que l'alcool fasse des ravages. Au-delà de 2 verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Testez-vous sur alcomètre.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de Santé publique France.
Merci d'écouter France Inter, il est 14h.